Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est musicien, chanteur et chef d'orchestre. Avec ses mains, il dirige notamment l'ensemble Pygmalion qu'il a créé, un chœur et un orchestre sur instruments d'époque, avec lequel il explore depuis de nombreuses années le répertoire baroque allemand notamment. Avec ce nouveau spectacle intitulé L'autre voyage, il a décidé d'exhumer des partitions oubliées de Franz Schubert et il imagine des tableaux lyriques, une forme de déclaration d'amour au compositeur viennois.
Bonjour Raphaël Pichon.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Merci beaucoup.
Avant que vous nous expliquiez, Raphaël Pichon, comment vous avez conçu ce spectacle, parce que avec les quelques lignes que j'ai prononcées, on ne comprend pas bien et on a envie de comprendre. Quelle est l'histoire d'abord de cet autre voyage? Où est-ce que vous nous emmenez?
Eh bien, nous vous emmenons sur finalement des thématiques, je crois, très propres à la musique de Franz Schubert. Des thématiques qui sont très singulières. Elles me semblent creuser bien plus profond que beaucoup de ses compositeurs et de ses contemporains. Il y a un mot qu'on associe souvent à Franz Schubert, c'est celui de l'errance, c'est ce fameux personnage qu'on appelle en allemand le Wanderer, et un homme qui, plongé dans une forme de solitude, est en quête de lumière, en quête de réponse, et se confronte à beaucoup de sujets universels, indispensables, qui touchent au deuil, à la vie, à la mort, à la solitude, au lien de filiation, au besoin de s'ancrer, au besoin de trouver, je dirais, un endroit où se lever et retrouver du sens à... retrouver une sorte de sens à la vie. Et pour ça, Schubert est peut-être l'un des compositeurs les plus extraordinaires dans ce qu'il nous offre comme consolation, ce qu'il semble nous offrir comme écoute, ce qu'il semble nous offrir de profondément humain.
Ce qui est très déstabilisant dans votre spectacle, pour être tout à fait honnête, c'est qu'on commence par une scène très poétique où il y a une femme assise sur un rouet et qui déroule un fil rouge qui vient effectivement sortir de l'instrument comme ça et déployer sur presque l'entièreté de la scène. Et ensuite, on est dans quelque chose de tout à fait plus réaliste puisque le début du spectacle, et je ne dévoile rien, c'est un médecin, le personnage principal qui est médecin légiste, qui se retrouve dans sa morgue, dans sa salle de travail, et il va se retrouver face à un corps qu'il doit autopsier, et ce corps, c'est lui.
Alors voilà encore une autre image et topic extrêmement fort de l'œuvre de Schubert, appelé en allemand le doppelganger, c'est celui du double. Et il y a, dans la production des leaders de Schubert, l'un de ses plus immenses sommets, qui s'appelle le double, le doppelganger, et qui raconte l'histoire d'un homme qui, depuis l'extérieur d'une maison, assiste tel un songe, une sorte de cauchemar. Il revit une scène qu'il a lui-même déjà vécue. Il s'aperçoit lui-même à travers les fenêtres de cette maison et il revit l'une de ses plus grandes douleurs, la douleur de la perte de l'être aimé. Et donc, nous voulions absolument que ce lit trouve sa place. Au centre, il est un peu l'épicentre de ce spectacle. Et autour de ce lead, finalement, sont venues ensuite la constellation des autres pièces qui cherchaient peut-être à préparer ce pic et ensuite s'en remettre, d'une certaine manière.
On va se plonger dans cette ambiance, dans ce spectacle, avec cet extrait.
Ich kenne mich nicht mehr.
Extrait de l'autre voyage d'après Schubert. C'est jusqu'au 11 février à l'Opéra Comique à Paris, puis ce sera en tournée notamment du côté de Dijon, à l'Opéra de Dijon. Raphaël Pichon, on est là au cœur du spectacle avec cet extrait d'As Mitglied Flett. Il y a dans ce spectacle des pièces que vous avez repérées, des pièces oubliées de Schubert, des moments d'opéra qui existent que vous avez pioché en quelque sorte, et vous avez essayé de tisser des liens, de construire un récit avec toutes ces pièces de puzzle en quelque sorte.
Franz Schubert, je crois, est quand même l'un des compositeurs les plus populaires encore aujourd'hui. Un peu à l'égal d'un Mozart. Je pense à sa musique de piano, qui fascine encore même aussi toute une génération de jeunes musiciens aujourd'hui qui ne font pas forcément de la musique classique. Sa musique de piano, sa musique de leader, justement, sa musique de chambre. Et pourtant, un mystère, c'est que un tiers de sa production musicale est aujourd'hui totalement oublié. Et c'est comme si un tiers de sa vie, en tant que musicien, nous en sommes coupés aujourd'hui. Et ce fameux tiers, c'est cet éternel souci, cette éternelle quête de réussir à l'opéra. Schubert habitait à Vienne, en Autriche, à une époque où Rossini triomphe sur les scènes de l'opéra viennois. Et ma conclusion, c'est que il a écrit donc près d'une vingtaine d'opéras. Il faut se rendre compte, c'est gigantesque. On parle quasiment d'une production aussi importante que celle de Mozart. Et pourtant, aujourd'hui, l'histoire n'a rien retenu. Alors d'abord, pour une raison très simple, c'est que la quasi-totalité de ses œuvres sont inachevées. L'inachèvement, c'est une des marques de l'œuvre de Schubert, comme une impossibilité à finir.
Ça veut dire quoi, inachevé? Il y a pas
inachevé,
de fin.
Ça veut dire que
ou il y a pas de cohérence globale. Il y a pas d'histoire.
Non.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il n'est pas allé au bout. Il n'a pas eu la force. Il n'a pas eu la conviction d'aller au bout de ses œuvres. Donc elles sont incomplètes. Donc on ne peut pas les monter aujourd'hui. Ou alors il faudrait les compléter. Et compléter Schubert, c'est une mission.
C'est audacieux, ouais.
Oui, puis c'est une mission quasi impossible. Et puis ses œuvres aussi, moi c'est ça qui m'a fasciné tout d'abord, c'est de me dire, voilà, un tel compositeur, comment est-ce que l'on pourrait trouver, imaginer l'écrin pour leur rendre justice, pour les présenter, pour présenter ce visage de ce compositeur que l'on aime tellement, qui semble toujours autant nous parler, à travers ce médium de l'opéra. Mais une conclusion, c'est vraiment imposé à mes yeux, c'est que toutes ces œuvres sont inachevées, peut-être aussi tout simplement parce que ce que l'opéra à Vienne à cette époque-là était capable de proposer à un compositeur comme Schubert ne fonctionnait pas avec sa personnalité, avec ses propres quêtes, ses propres aspirations. En fait, ce qu'il avait à nous faire entendre, ce qu'il avait à nous donner, sont très loin des histoires peut-être un peu triviales de cette époque-là. On aimait le grand roman gothique, on aimait les grandes histoires de chevaliers, les grandes histoires d'amour. Et Schubert creuse tellement plus profond. Ce sont des abysses qui s'ouvrent derrière sa musique. Et donc il fallait tout simplement inventer l'écrin et peut-être le tissu narratif, le geste, une sorte de théâtre d'image qui permettent de faire circuler le pouvoir extraordinaire de cette musique.
Ça veut dire, Raphaël Pichon, que Schubert, à l'époque, quand il écrit, et c'est un travailleur acharné, puisqu'il va mourir à l'âge de 31 ans, et vous avez décrit la taille et l'ampleur de ce qu'il a pu produire, il est trop sombre à l'époque, on n'a pas envie, ou en tout cas, ce ne sont pas des thématiques qui portent à ce moment-là. Les thèmes clés de Schubert, on peut en citer quelques-uns. Le voyage, bon, ça va. La séparation, la solitude, la nostalgie du paradis perdu, l'amour refusé, la mort. On est dans quelque chose, effectivement, de très sombre.
Bien sûr. J'ai la sensation qu'il est, une fois de plus, un compositeur extrêmement visionnaire, peut-être en avance sur son temps. Toutes ces thématiques que vous citez me font penser à un certain théâtre du premier XXe siècle. J'irais jusqu'à, par exemple, un de nos grands chefs-d'œuvre du début du XXe siècle, peut-être le Wozzeck d'Alban Berg, ou un certain théâtre berlinois, ou c'est-à-dire un théâtre plus psychanalytique, un théâtre qui semble creuser très très profond, qui ouvre des pans de l'âme humaine, peut-être on est vraiment presque dans le non-dit, on est dans ce qui est parfois interdit. Et effectivement, je crois qu'il y avait une inadéquation totale entre ce que les scènes étaient capables de lui offrir et ce qui semble avoir porté au plus profond de lui. Et donc c'est pour ça que l'envie, l'intuition de ce spectacle, c'est d'offrir encore une fois une possibilité d'exister à toutes ces musiques, avec la difficulté immense de réussir à ce travail de mosaïque. Donc en allant puiser, ce qui m'a intéressé, moi, c'était de passer beaucoup de temps à analyser, à comprendre, à essayer de connaître vraiment intimement toutes ces œuvres et d'en sélectionner, je dirais, peut-être les fulgurances, les météores, tous ces moments vraiment d'exception. C'est, moi, j'appelle ça des bulles, c'est-à-dire tous ces moments où finalement Schubert quitte la narration des opéras qu'il était en train d'essayer de composer pour s'évader, pour aller ailleurs. Et encore une fois, cette idée de creuser encore plus profond. Et donc, j'ai réuni un peu toute une constellation de toutes ces pièces en essayant... Voilà, une sorte de travail de couture pour tenter de dresser une nouvelle arche, un nouveau voyage, une sorte d'odyssée, d'itinéraire, presque un peu psychanalytique, à travers cette sorte de narration que nous avons essayé d'imaginer avec la metteur en scène Sylvia Costa.
Et Sylvia Costa, à qui vous avez donc tendu la feuille blanche, en quelque sorte, pour qu'elle, effectivement, mette en scène ces musiques, ce récit initiatique qui parle de la mort, il faut bien le dire, mais est-ce qu'on peut aussi voir dans ce spectacle, L'autre voyage, une forme de portrait, du coup, de ce compositeur Schubert? Qui il était vraiment? Est-ce qu'on ressent les thèmes, effectivement, qui l'ont mené tout au long de cette courte vie?
Écoutez, oui, je crois que c'est aussi une sorte d'hommage, de portrait, c'est une évidence, mais à travers un langage et des vocabulaires que, jusqu'ici, on ne connaissait que très peu. Je parle des langages qui ont trait à l'opéra, ou alors des langages qui ont trait à certaines grandes pages beaucoup plus connues, mais sous un visage inédit, c'est-à-dire, au lieu d'être donnés à travers une voix et un piano, ils sont aujourd'hui donnés avec une ampleur démultipliée par le fait que ces leaders sont désormais orchestrés. Je pense par exemple à cette page extraordinaire qu'est ce fameux doppelganger, ce double, ici orchestré par Franz Liszt, quelques années après la mort du compositeur. Et tout d'un coup, c'est une explosion. Hein. Je trouve que la pièce se retrouve absolument démultipliée, prend une force extraordinaire.
Raphaël Pichon, pour être un peu pédagogue sur les leaders et les leads, on dit de Schubert que c'est le maître incontesté du lead. C'est quoi un lead?
Un lead, c'est une chanson.
Voilà.
C'est un poète qui va écrire un poème. Ce poème va ensuite être sélectionné par le compositeur et il va le mettre en musique. C'est un art qui était à la fois extrêmement populaire et qui a acquis ses lettres de noblesse justement à l'époque de Schubert. Schubert en est le plus grand représentant. Il y en a d'autres. Je pense à Robert Schumann que l'on connaît, Hugo Wolf, jusqu'à Richard Strauss. Et ensuite aussi, bien sûr, chez les compositeurs français, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel. C'est l'art de la chanson et pour Schubert, finalement, ce sont ses vrais opéras, en tout cas ceux que l'on connaît aujourd'hui, parce qu'il est capable de développer un dramatisme extraordinaire, d'inventer, si vous voulez, tout un monde, une sorte de micro-monde, parfois en 3, 4 ou 5 minutes.
Vous avez dit, Raphaël Pichon, que Schubert était un des musiciens, compositeurs les plus aimés par vous, dans le monde de la musique. C'est vrai que c'est pas forcément un nom qu'on peut, quand on va parler de musique classique, qu'on va tout de suite sortir, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres pour un chef d'orchestre? Quel est le plaisir qu'on a à diriger des musiciens qui jouent du Schubert?
Je crois qu'il a quelque chose d'unique qui est peut-être sa fragilité. Je trouve que c'est une ode à la fragilité, à la naïveté, à la simplicité, à la singularité aussi. C'est un homme, je trouve, qui nous emmène sur des terrains que je parlais tout à l'heure de cette idée de non-dit.
Ou de psychanalyse, choses, vous disiez
bien
aussi.
Bien sûr, quand je vous parle de ces abysses qui semblent se creuser avec cette musique, c'est-à-dire que toute cette fragilité qui se dégage de cette musique, je trouve qu'elle la rend extrêmement parlante. Pour dire une chose aussi là un peu naïve, on a l'impression d'avoir affaire à un ami, à quelqu'un avec qui on peut développer une intimité extrêmement forte avec très peu, et même sur des formes très très courtes. Et c'était un peu ça que je souhaitais tenter d'exprimer à travers cette fameuse mosaïque qu'est ce spectacle. C'est-à-dire que l'on enchaîne une galaxie de micro-mondes, parce qu'il n'y a pas de forme longue, ce sont que des petits morceaux finalement qui durent 2, 4, 5 minutes maximum, mais qui chacun ont une telle densité, un tel pouvoir. Je crois que malgré la barrière de la langue, malgré le fait de peut-être ne pas connaître ce compositeur, et en plus à travers que des pages oubliées, eh bien, je crois que chacun peut s'y retrouver. Chacun a quelque chose à prendre d'extrêmement puissant à travers cette personnalité qui a toujours été une personnalité qui a cherché un petit peu à se cacher. On sait que c'est un homme d'une grande timidité qui rêvait de lumière, mais qui
était empêché, qui n'y arrivait
oui,
pas.
Oui, qui était empêché, et puis peut-être encore une fois, qui n'était pas exactement au bon endroit, au bon moment. Alors que pourtant, il avait tant à nous donner, à nous offrir, et j'espère que ce spectacle peut le prouver encore une fois, à travers des pages et des langages plus inattendus.
Mais c'est paradoxal de vouloir créer des moments d'intimité à travers quelque chose d'aussi magistral qu'un concert de musique classique avec il y a quelque chose de d'écrasant parfois dans ce genre de moment de majestueux. C'est pas un dialogue entre deux personnes, hein. On n'est pas en train d'assister à un concert en solo, par exemple. Donc il y a quand même quelque chose de paradoxal dans cette idée d'intimité. Comment vous, en tant que chef d'orchestre, vous pouvez créer cette intimité-là avec un grand public et autant de
alors,
musiciens?
Alors bien sûr, ça c'est une quête inlassable. C'est une des choses qui me tient le plus à cœur en tant que musicien. Il se trouve que moi, je suis arrivé dans la musique classique par un magnifique hasard de la vie. Je viens pas d'une famille d'artistes. Cette chose-là, la musique classique, m'est tombée dessus alors que j'étais un jeune enfant de 9 ou 10 ans et rien ne m'y préparait. Et pourtant, justement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est cette possibilité d'intimité, de quelque chose qui vient vous bouleverser à la fois de façon physiologique, sensible, qui semble vous offrir la possibilité d'explorer une infinité de mondes sensibles extraordinaires. Donc, je crois que l'on peut, sur une scène d'opéra, créer les conditions d'une intimité extraordinaire avec chacun dans la salle. C'est difficile, surtout, effectivement, vous le dites, quand tant de forces se déploient. Et je crois aussi que la spécificité de Schubert et de ce spectacle, moi en tout cas, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'était d'explorer peut-être des zones du son, des zones sonores qui normalement ne sont pas très privilégiées à l'opéra. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je parle de moments où l'on joue tellement piano, où les choses sont tellement ténues, où les choses sont tellement fragiles, où on s'autorise à visiter tellement les limites de ce que le son peut nous offrir. On s'approche en fait quelque part un peu du précipice, juste avant de tomber. Et cette notion de risque-là, je pense à des moments où il y a un jeune enfant dans ce spectacle qui se met à chanter a cappella, ou à la fin de notre spectacle où l'orchestre est obligé d'aller jouer, mais vraiment avec tellement peu d'archets que peut-être le son ne va pas sortir. Eh bien, tous ces moments de fragilité, je crois, sont des zones où l'intimité avec chacun dans la salle peut se nouer quelque chose, un lien extraordinaire.
Qui chantait Raphaël Pichon, vous bouchiez les oreilles,
mon
mais
Dieu.
C'était bien vous qu'on entendait chanter Noti Curo O Libertà d'Alessandro Scarlatti, c'était en 2009.
On parlait tout à l'heure de l'art de la chanson avec le lead. La chanson, le chant, c'est la façon avec laquelle vous avez fait votre entrée aussi dans la musique classique. Vous avez commencé un peu plus jeune à l'école primaire dans une classe aménagée, il fallait choisir un instrument de musique, vous aviez choisi le violon, il vous en est rien resté, et ensuite c'est le chant qui vous a amener sur scène, à partager, à communier, à trouver ce lien, cette chose intime aussi avec le public. Et vous dites, Duchamp, que c'est l'une des choses les plus difficiles qu'il soit. Pour quelle raison ?
Parce que, alors, j'ai la chance, depuis maintenant presque 20 ans, d'être au contact de tant de chanteurs. Le chant, même si je ne chante plus, reste l'une de mes occupations majeures dans ma vie, dans ma vie de musicien. Non, je trouve que c'est une chose très difficile parce que quand vous jouez d'un instrument, il y a entre vous et le public un médium, un corps étranger. Et bien, quand vous chantez, c'est quelque chose de tellement intime et puis qui touche à la fois évidemment au corps et à l'âme. C'est-à-dire que c'est une sorte de réunion absolument unique entre la plus profonde intimité et votre propre corps. Votre propre corps devient instrument. Et c'est un moment où vous devez accepter de révéler, de vous révéler là aussi dans votre plus grande fragilité. Et c'est ça peut-être aussi qui est bouleversant, c'est que, à mon sens, la voix est le médium le plus saisissant de toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les cultures, à tous les âges. Quoi que l'on chante, c'est l'une des plus grandes traces, l'une des plus grandes preuves de notre humanité, finalement, notre voix. Donc moi, je resterai toujours absolument fasciné, et c'est vrai qu'en tant qu'enfant, je crois qu'aussi que c'est un lien privilégié pour découvrir ce que peut vous apporter, comment la musique peut transformer intimement votre vie. Et moi, c'est comme ça que ma vie a changé. Elle a été totalement bouleversée par le chant. Je me souviendrai toujours des premiers moments où j'ai chanté. Je parle de tout d'un coup une sorte de réaction chimique qui est absolument unique, c'est-à-dire que pour la première fois, surtout quand vous chantez en polyphonie, c'est-à-dire quand vous chantez en groupe, eh bien, il y a tout d'un coup quelque chose d'extraordinaire entre une acoustique, un lieu, la pierre, le chant, le fait de chanter à plusieurs, de n'être qu'une partie de cette polyphonie, ensuite le texte que vous chantez, les notes que vous chantez, le message que vous portez, même s'il vous dépasse, eh bien toutes ces composantes réunies sont capables de provoquer chez vous une expérience sensible. Et même quand vous avez 9 ou 10 ans et que vous n'êtes pas en capacité de tout comprendre, eh bien, moi en tout cas, je sais que je suis loin d'être le seul, elle a absolument, absolument bouleversé ma vie.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le violon ?
Oh, je crois que c'était très lié à son enseignement, tout simplement parce que il se trouve que l'enseignement que j'avais, la façon dont on m'a enseigné le violon quand j'ai commencé, était une approche très technique, loin d'une approche sensible, où on ne me faisait pas jouer aussi de musique de première importance. C'était une approche très
institutionnel,
oui,
scolaire, ce qui est souvent le cas en fait pour la musique classique.
On passe par des conservatoires. Non, je crois pas. C'est pas souvent le cas. Je pense que c'est comme pour tous les enseignements, il y a des enseignants capables de vouloir éveiller chez vous bien autre chose que l'approche technique. L'approche technique, elle est indispensable. C'est le socle indispensable à la possibilité de s'exprimer. Mais par contre, si on fait l'impasse sur le développement sensible, alors on passe à côté de l'essentiel.
Tout à l'heure, Raphaël Pichon, quand vous expliquiez ce choc physique de la chanson, vous parliez du récit, de la musique, du chant, de l'acoustique, de l'église notamment, ou de l'endroit où on se trouve. Et quand vous me racontiez ça, je vous imaginais déjà en train de vouloir concevoir un spectacle, de vouloir diriger, en tout cas, des musiciens, des chanteurs, un chœur. Est-ce que c'est de là qu'est venue cette position où vous êtes aujourd'hui, puisque ce spectacle dont on parlait tout à l'heure, vous l'avez conçu et vous le dirigez aujourd'hui. Il y a un chœur, je ne l'ai pas dit, qui est le chœur Pygmalion, dont on va reparler dans un instant, et évidemment des musiciens, un orchestre. Donc, est-ce que c'est de là que c'est venu ?
Bien sûr. Et d'ailleurs, je crois que j'ai été marqué à tout jamais par le fait d'avoir commencé mes premiers émois musicaux à travers des histoires, à travers des grands récits. Aujourd'hui, la question du récit, elle m'obsède. Quand je conçois un programme de concert, je ne peux aujourd'hui l'envisager sans l'idée d'un récit qui qui sous-tend ce concert. Je crois que de tout temps, depuis le début de notre humanité, la question du récit, elle est centrale. Et je crois que la réunion du récit avec le pouvoir de la musique et surtout le pouvoir de la voix est une réunion peut-être indispensable pour toucher, pour parler, pour transmettre. Et je crois que c'est ça qui m'a touché, alors tout jeune adolescent. Et c'est ça que je voulais faire perdurer. Je n'avais pas du tout des rêves, si vous voulez, de devenir chef d'orchestre. J'avais la nécessité absolue. Finalement, j'étais piégé. À partir du moment où j'avais vécu ces premiers émois musicaux, il m'était devenu, en fait, impensable de faire autre chose que de vouloir faire perdurer, j'aurais presque dire tel un peu un junkie. C'était une vraie vocation. Et puisque j'avais vécu aussi ces premiers émois musicaux en polyphonie, c'est-à-dire en groupe, c'est-à-dire avec une expérience collective, eh bien, je ne pouvais pas imaginer une trajectoire individuelle. D'où le besoin de faire naître un groupe. Et puisque j'étais à la fois instrumentiste et chanteur, avec l'idée aussi de faire rentrer en fusion à la fois des instruments et des voix, eh bien voilà, c'était comme ça qu'est née cette idée de cette aventure collective, et avec ce groupe, l'envie de raconter des histoires.
Les midis de culture. Jusqu'à 13h30, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
C'est un extrait du premier disque de votre ensemble, Raphaël Pichon, Pygmalion. On vient d'entendre Jean-Sébastien Bach, Missa Brevis en La majeur.
Vous aimez, vous l'avez dit, les grandes fresques, Raphaël Pichon. Et là, la création de cet ensemble, c'est un peu aussi l'audace qui est en vous. Si je dis pas de bêtises, vous avez 22 ans et vous décidez de créer en fait cet ensemble Pygmalion, qui ne s'appellera Pygmalion qu'ensuite, parce qu'il y a un ensemble polonais qui annule sa participation à un festival en consacré à Bach, avec aussi l'audace de reprendre du Bach, qui est quand même très exigeant et qui est très difficile. Donc il y a aussi chez vous cette force, cette audace d'aller créer l'endroit où on pourra prendre du plaisir et faire de la musique. Avec sa façon personnelle et propre.
Alors, à cette époque-là, pour moi, il n'y avait pas une sensation d'audace. Il y avait une obligation, une sorte de besoin. Je portais ça en moi. Et puis, je crois aussi que me suis tourné vers les institutions à cette époque-là, en tant qu'étudiant. Et de par ma nature et de par peut-être différents paramètres ont fait que il n'y a pas eu vraiment de compatibilité entre moi et les institutions. Quand je dis les institutions, c'est-à-dire de faire un parcours plus classique en faisant mes classes de chef d'orchestre au conservatoire et tout ça. Et donc, l'idée de fonder ce collectif, de fonder cet ensemble, était mon école à moi. Et je crois que nous avons aussi une chance unique. La France est un terreau extraordinaire, envié dans le monde entier aujourd'hui, ce monde des projets. C'est-à-dire, par le système de notre intermittence, par le système de la subvention publique, elle est une terre d'accueil extraordinaire dans le monde du théâtre, dans le monde du cirque, dans le monde de la danse, dans le monde de la musique, avec tous ces phénomènes des compagnies. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, toute cette richesse est de plus en plus menacée. Peut-être un tout petit peu mise de côté au profit des institutions, ce qui me semble être un vrai danger, parce que je crois que c'est l'une de nos plus grandes forces, parce que ces projets peut-être épousent au millimètre, parfois même sont en avance, sur les grands enjeux de nos sociétés, et de notre société. Puisque ces projets naissent, puis finissent par mourir, eh bien, ils sont le témoin ou parfois même les guides de nos sociétés, que ce soit dans toutes les disciplines artistiques. Et elles sont un complément indispensable, elles sont le revers de la médaille absolument, encore une fois, indispensable de nos institutions. Et je crois que ça, c'est une grande chance. Aujourd'hui, c'est pas toujours facile d'être à la tête d'un ensemble comme celui-là, ou d'une compagnie, parce que le monde est devenu dur, comme pour tout le monde, mais il est devenu dur aussi, et que il est de plus en plus difficile de à la fois de survivre et de continuer à se développer. Mais je crois que j'ai tout à fait conscience aussi de notre chance, de ma chance. Mais je crois que c'est cette force du monde indépendant, des indépendants, est une chose qu'il faut chérir absolument encore dans le futur.
Pour entrer dans le détail de ce qu'est un chef d'orchestre qui dirige et un chœur et un orchestre, Raphaël Pichon, qu'est-ce que ça change? Hier, je vous ai vu, vous dirigez avec les mains.
Oui.
Vous êtes assez grand. On vous voit, vous êtes imposant et pour l'orchestre qui est en contrebas et pour les chœurs qui sont les chanteurs qui sont sur scène. J'avais envie de vous demander quelque chose de très simple. Comment ils comprennent quel geste est adressé à qui?
Oui, alors c'est une question, je sais, qui est très récurrente finalement. Quel est vraiment le rôle du chef d'orchestre et quelle est vraiment la nature de ce qu'on appelle nous la communication non verbale? Alors, il y a d'abord tout un socle, d'informations codées que le chef d'orchestre donne. J'oserais presque dire un peu comme un gendarme qui fait la circulation, avec en fonction de là où se trouve le bras, une codification qui permet de se retrouver sur la partition. Et ensuite, il y a la partie la plus importante, la plus passionnante, la plus captivante, la plus sensible, qui est celle de cette fameuse communication non verbale et qui rend absolument infinie la possibilité de lecture d'une partition. C'est-à-dire qu'un soir, vous allez écouter le Requiem de Mozart dans telle salle, avec tel orchestre, tel chef et tel chanteur, vous passez un moment un peu anonyme, et le lendemain soir, vous allez revoir la même pièce et vous avez eu l'impression d'avoir été traversé par quelque chose. Eh bien, alors ce n'est pas du tout que la responsabilité du chef d'orchestre, c'est évidemment la qualité des musiciens, leur engagement, leur générosité, leur volonté, leur désir justement de prendre des risques, de s'approcher, on parlait du bord du précipice tout à l'heure, mais cette communication non verbale, elle passe par tout. Elle passe par votre corps, elle passe par votre regard, elle passe par vos yeux, elle passe par l'inflexion d'un doigt, c'est-à-dire est-ce que tout ça va être doux, fort, lent, urgent, extatique, est-ce que telle note, telle couleur, on est là dans une palette, une possibilité de micro-mondes qui doivent être en cohérence et dans un grand respect de ce que le compositeur semble nous demander, mais aussi avec la possibilité d'y mettre tant de vous-même, d'y mettre à la fois vous-même et ce que les musiciens vont vous proposer en retour. Et c'est ce qui fait voilà, cette partie la plus mystérieuse, mais en même temps la plus belle et la plus sensible de la musique.
Raphaël Pichon, vous avez parlé de votre statut d'indépendant, de votre entrée, de votre début comme chef d'orchestre, presque par effraction et par un heureux hasard, une chance que vous avez su saisir. Quelle est aujourd'hui votre légitimité? Est-ce que vous êtes reconnu par ce monde classique, de la musique classique, qui est quand même très régenté par les institutions et par des effets de reconnaissance, un monde de l'art et des critiques qui vous valident ou pas?
Alors, tout d'abord, il est important de dire que le monde indépendant reste un monde qui aujourd'hui est largement organisé. Et c'est une chance.
Vous n'êtes pas des électrons libres qui vous baladent comme
ça.
Non,
voilà, c'est-à-dire que c'est à la fois une chance et un danger. Mais il y a un parcours possible quand vous montez une compagnie. Les débuts, il faut peut-être attirer l'attention de certains programmateurs, faire naître de premiers enregistrements qui sont déjà une sacrée épreuve du feu, si je puis dire, de réussir à convaincre que vous avez une singularité. particularité, que vous avez une place, que vous avez quelque chose à dire de différent des autres, ou en tout cas qui a une légitimité d'exister. Et ensuite, vous pouvez espérer que ces premiers enregistrements et ces premiers concerts attirent l'attention du subventionneur, que le subventionneur accepte de vous accompagner. Tout ça est très organisé avec ce qu'on appelle d'abord l'accompagnement au projet, qui peut aller jusqu'au conventionnement. Alors, c'est des termes très techniques, mais tout ça pour vous dire que cette chose, elle existe. Et je crois que d'ailleurs, c'est cette chose qui me semble indispensable de préserver, de continuer à développer, d'accompagner, parce qu'elle est, encore une fois, la possibilité de faire exister une pluralité extraordinaire de regards sur notre musique classique, et qui va aussi prouver que notre musique classique, elle a aujourd'hui une grande difficulté, c'est de continuer à vivre, même j'oserais dire parfois à survivre, dans un tel océan de propositions artistiques et musicales. La musique aujourd'hui, elle est partout dans notre vie, parfois même à nos dépens. Et pourtant, eh bien, tous nos grands compositeurs, tout ce grand patrimoine de la musique classique, eh bien, a quelque chose d'absolument unique à nous donner. Elle peut bouleverser, nourrir nos vies en nous apportant quelque chose que toute autre musique ne pourra pas nous apporter. Moi, j'aime énormément de musique très différente, mais il me semble que Schubert ou Mozart ou Monteverdi ou Bach, eh bien, pour tout le monde, ont quelque chose, quel que soit, il faut alors être accompagné parfois pour pénétrer ce genre de monde, mais quelle musique ne demande pas d'être accompagnée pour la découvrir? Et il faut parfois être accompagné, mais ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elle a à nous transmettre, c'est qu'elle est capable de nous livrer à la fois sur notre vie et sur tant d'autres galaxies et mondes à explorer, je crois être absolument unique. Et doit continuer de trouver sa place. Elle a une place indispensable dans nos sociétés d'aujourd'hui et de demain.
Merci beaucoup Raphaël Pichon d'être venu dans les Midi de Culture. Vous parliez d'exploration, je rappelle le titre donc de votre spectacle. L'autre voyage d'après Schubert, mise en scène par Sylvia Costa avec Stéphane Degout, Sioban Stagg, Laurence Kilsby et Shadi Lazrek. L'ensemble Pygmalion et la maîtrise populaire de l'Opéra Comique. C'est jusqu'au 11 février à l'Opéra Comique à Paris et ce sera ensuite les 6 et 8 mars à l'Opéra de Dijon.
Et pour finir, Raphaël Pichon, nous avons choisi deux musiques, l'une en référence avec Pygmalion, l'autre en référence à Galatée, c'est la sculpture de Pygmalion. Laquelle des deux souhaitez-vous écouter ?
Galatée.
Merci beaucoup Raphaël.
Merci beaucoup à vous
d'être venu sur France Culture dans les Midi de Culture, une émission préparée par Aïssa Twendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignel, Laura Dutèche-Pérez, Manon de la Selle et Apolline Limosino. L'émission est réalisée ce midi par Nicolas Berger et la prise de son c'est Alex Dang. Merci Géraldine, à lundi.
À lundi Nicolas.